Couleur Terre, cultivons la vie, une émission animée par Hélène Hollard, spécialiste en agroécologie, Floem Sève, spécialiste en permaculture, et Lucie Aubin, journaliste, tous deux à retrouver sur Radio Permaculture, et avec bien sûr notre ami fidèle Laurent à la technique.
Adressé aux jardiniers chevronnés, en devenir, ou tout simplement aux curieux ou dépassés par leur jardin, une émission qui sera à votre écoute, à vos questionnements, en donnant de fertiles matières à réflexion.
Comment respecter la vie et intégrer ce respect dans nos pratiques culturelles, économiques et sociales?
Comment construire une agriculture saine et vivante, indispensable à l'humanité, et trouver une autre compréhension de l'écosystème urbain et rural?
Et pour ce faire, une équipe de choc et diversifiée se réunit à ce micro pour partager ensemble ses savoirs spécifiques.
Aujourd'hui, pas d'introduction du sujet, je me suis retrouvé un peu à sec quand il a fallu la préparer, tel un terrain qu'on aurait pompé encore et encore, qu'on aurait laissé se faire lessiver par la pluie, battre par ses petites gouttes, sec, avec une inspiration à vide. On aurait un peu oublié de nourrir par les livres, les spectacles, le cinéma, l'esprit désertifié, privé de culture, qui ne rendrait rien puisqu'on ne lui aurait rien donné, pas d'introduction. Donc à vous de vous débrouiller avec ça. À prendre racine sur un terrain aussi peu accueillant, à vous glisser dans l'émission sans préparation. Quoique, finalement, quand on y pense. Aujourd'hui, nous parlerons des engrais verts avec Tita Nouben, bonjour.
Bonjour Floem.
Et Hélène Hollard.
Bonjour.
Mais d'abord, c'est le moment des réponses à vos questions, questions que nous prenons encore sur les réseaux sociaux, mais que vous pouvez adresser à questions@radioperma.org. Les questions du jour. Une question de Neila Rondan. Bonjour. L'an dernier, du Roundup a été pulvérisé. On ne sait pas par qui, tiens donc. A été pulvérisé sur mon jardin et je voudrais savoir combien de temps ça met à partir cette. Je songe vraiment à faire une petite lasagne dans le jardin. Peut-être serait-il de dire ce que c'est. Pour commencer à m'entraîner, mais j'ose pas à cause du Roundup. Combien de temps vous attendriez encore, vous? Y a-t-il moyen d'activer son évacuation par un ou deux moyens, un antidote pour les sols, quoi? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous
déjà alors, arrivé, de quoi? Du Roundup d'abord?
Ce que vous pensez du Roundup, j'ai d'accord. Pas tellement besoin d'avoir d'infos. Je pense que vous en pensez la même chose que
non,
moi.
Non, mais pas la lasagne en premier. Quoi.
Non, parlons du genre de.
Du temps d'élimination.
Ouais, du temps d'élimination du Roundup.
Donc, le temps exact, je ne connais pas, mais moi, je pense qu'il faut bien compter 2-3 ans pour que ça, que ça ait disparu. Et par contre, ce qu'elle peut faire, c'est déjà planter des plantes qui vont nettoyer son sol. Quoi. Des plantes qui vont pomper en fait les éléments et qui vont nettoyer le sol. Et donc si elle fait une lasagne, et ben la faire peut-être ailleurs, un endroit où il y a rien en dessous, pour qu'elle puisse cultiver des plantes nettoyantes sur son l'endroit où il y a eu du Roundup. Quoi.
Une lasagne, c'est quoi du coup? Je trouve ça peut-être le goût qu'on dit.
Lasagne, donc c'est.
Je peux en parler moi du coup parce que voilà. Ça c'est le genre de truc. C'est très permaculture.
Je peux en parler aussi.
C'est le genre de bêtise à la mode. Ah, oui, les gens font des lasagnes parce que d'un seul coup, ils ont l'impression de faire de la permaculture. La permaculture est une éthique, ce ne sont pas des techniques. Certaines techniques rentrent dans l'éthique. La lasagne, en fait, c'est une manière une certaine manière de fabriquer du sol, de préparer une culture en proposant à notre terre, à notre sol, une multicouche de matériaux, chaque couche ayant une fonction très précise. La couche du fond a une couche d'étouffement des végétaux précédents, on ne travaille pas du tout la terre, donc on met du carton, typiquement. Oui, Hélène me fait des gros yeux parce qu'elle n'aime pas le carton. Mais on met du carton, mais on peut aussi mettre de la laine si vous avez du tissu, du géotextile, si jamais, voilà. Enfin, géotextile, non, peut-être pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'étouffer la végétation. Donc moi, j'utilise pas mal de carton. J'ai tendance à bien tuiler, au moins 20-30 cm de tuilage de carton. On peut même mettre plusieurs couches de carton. Et puis ensuite, on va rajouter par-dessus une couche de matériaux broyés la plupart du temps. On peut rajouter du compost, on peut rajouter de la terre directement pour lester ce premier matériau. Terre prise dans un autre endroit du jardin, c'est tout à fait possible, mais on peut prendre, comme je disais, du compost. Vous avez une composterie pas trop loin de chez vous. Vous pouvez aussi rajouter... Enfin, l'idée, c'est que le matériel qu'on met par-dessus soit lourd. Donc, vous pouvez aussi rajouter des branchages, même pas forcément broyés. C'est pas très gênant. Là, c'est une zone... voilà, c'est un matériau lourd, un peu en mélange. Et puis, par-dessus, vous mettez une couverture. Donc, soit paillage, soit broyat de bois. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une lasagne, parce qu'il y a plusieurs couches, chaque couche ayant sa fonction, la fonction d'étouffement, la fonction de prise, de mise de poids sur cette première couche, et qui est aussi le support de culture, en réalité, cette couche un peu lourde, là. On peut mettre du fumier, aussi, et si on fait, on peut attendre que la lasagne soit tranquillement décomposée. Et puis, il y a la couche de couverture, qui a la fonction ordinaire de couverture, dans un sol, c'est ça, une lasagne. L'intérêt d'une lasagne, c'est qu'elle peut se cultiver très rapidement sur un sol très dégradé, puisque normalement, on arrive à une lasagne, ça fait au moins 20-30 cm, oui, 20, je suis même gentil, ça peut faire 30-40 cm avec la couverture. Donc, l'intérêt d'une lasagne, c'est ça, c'est d'avoir une couche immédiatement cultivable, et du coup, sur un terrain qui a été roundupé, ça permet de faire une couche... un peu plus saine au-dessus en fonction des matériaux qu'on utilise, parce que ça dépend aussi des matériaux qu'on utilise. Si vous prenez de la paille qui a été toute traitée, est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Voilà. Mais,
non, c'est sûr que non.
C'est,
pas mieux.
Voilà, c'est pas mieux.
En fait, c'est un sol artificiel. En fait,
c'est
qu'on
un
fabrique
sol, voilà, quoi, c'est ça.
Ce veut,
on peut s'en servir dans un bac de culture aussi. C'est un super bon moyen de commencer dans un bac de culture sans forcément avoir la couche d'étouffement en dessous.
Et puis dans son cas, ça peut être bien de faire ça à côté des zones où elle voudra cultiver après. Mmh. Et puis comme ça, elle peut commencer à nettoyer la terre à côté. Et puis dans un an ou deux, cultiver
et
dans
on
la terre.
On pourrait nettoyer avec des cultures...
Des cultures nettoyantes, ça existe, ça s'appelle. Ouais. Cultures qui, ou bien des plantes, ça dépend un peu ce qui... Si c'est pour les produits chimiques comme ça, on peut mettre des plantes type... Ah, ça y est, maintenant, on m'échappe, là, comme le cardère, là. La cardère,
oui, des
ou des
plantes,
plantes
bioaccumulatrices.
Voilà, qui vont récupérer. Ou bien simplement, n'importe quelle culture, on va dire, déjà va utiliser les produits qui sont dans la terre et puis les transformer dans son corps. Et après, on les évacuera, on ne va pas les garder, ceux-là.
Après, en ce qui concerne le glyphosate, c'est probablement pas forcément une accumulation compte tenu de la nature du produit. Ce qui va être intéressant avec une culture de désintoxication, c'est que ça va aussi amener toute une flore bactérienne qui, elle, va se nourrir des produits chimiques qu'il y aura dans la terre.
Oui, puis ça va l'améliorer, parce que très souvent, tous ces produits chimiques, ils tuent justement la vie du sol, et c'est ça qui nous embête, quoi. Donc là, remettre de la vie, et une fois que la vie est là, après, ça va se rééquilibrer. Après, tout dépend combien de temps il y en a eu, si le sol est mort, enfin, s'il y a encore... Regardez un peu ce qui se passe quand même dessous.
Donc il n'y a pas d'antidote miracle, mais cultiver ton sol avec des cultures intercalaires, avec des choses, enfin intercalaires, même pas intercalaires, qui auront pour fonction d'occuper ton sol. Thibaut Mortegoutte, bonjour à tous, j'ai besoin de vos conseils, je viens de récupérer un potager dans un jardin familial. Alors il nous met une jolie photo en disant il est dans cet état aujourd'hui. Alors c'est un potager, c'est une parcelle qui était non cultivée depuis quelques temps, avec un cabanon, quelques arbres autour, une parcelle dans un jardin familial. Et Thibaut nous pose ces questions. Pouvez-vous me conseiller sur les étapes à suivre? J'ai de la paille à disposition, un petit nettoyage avant, quelle épaisseur de paille? Aérer le sol à la grelinette avant le paillage? Ah, je suis perdu.
Et qu'est-ce qu'il dit qu'il y a sur son sol? Il dit pas?
Eh ben, il n'y a pas grand-chose, en fait. C'est les adventices qui étaient là précédemment, mais non.
Ouais, c'est pas
c'est peut-être ça, la première chose à faire, de regarder ce qu'il y a.
Ben, regarder ce qui pousse. Après, sachant que même du chien dent, si on va couvrir le sol, de toute façon, ça va permettre d'améliorer le sol. Puis le chien dent, il aura quand même du mal, il va jaunir. Après, on aura plus de facilité à l'enlever. Mais on sera obligé de l'enlever quand même. Mm-hmm. Selon ce qui pousse comme adventice. Une fois qu'il est donc paillé, ok, c'est avec de la paille ou autre chose. Et une fois qu'il va regarder ce qui se passe en dessous, il va voir que les herbes jaunissent, après elles disparaissent. Après, il y a la vie du sol qui va rentrer en action, en activité. Et après, c'est de voir qu'est-ce qui va rester. S'il y a des plantes à rhizome, ça se peut qu'elles restent, qu'ils soient quand même obligés d'aller les enlever. Quoi. Tout dépend de ce qu'il y a qui pousse.
Donc en fait, en premier lieu, va écouter notre toute première émission sur le lieu et passe un peu de temps à observer ton espace, Thibault, les espèces qui poussent, ce qu'il y a, et pourquoi pas observer aussi les jardiniers qu'il y a, parce que si c'est un potager, un jardin familial, il y a peut-être passé du temps avec ces gens-là, c'est peut-être une chose importante.
Oui, après, si c'est un jardin familial, ce serait étonnant qu'ils trouvent du chien-dent sur les parcelles, il y aura peut-être plus de problèmes comme la question d'avant, c'est-à-dire des produits chimiques qui ont pu être mis dessus, parce que c'est pas forcément interdit dans les jardins familiaux.
Et puis parce que les gens ne sont pas forcément... tous sur la même longueur d'onde dans la manière de cultiver. Donc voilà, il y a ce travail. En fait, il y a tout le travail d'observation avant même de pailler. Après, pailler, j'imagine, c'est pas forcément mal, mais c'est peut-être mettre la charrue avant les bœufs.
Déjà bien voir, discuter avec les gens et de voir la vie qu'il y a dans son sol, ce qui sera un très bon critère de savoir si les pratiques qui étaient avant ont été respectueuses de cette vie ou au contraire que ça a été matraqué et qu'il n'y a plus personne qui vit là-dedans.
Et si ça n'a pas été respectueux, de refavoriser
la vie. Voilà, il va falloir faire revenir.
Cultivons la vie, et notre sous-titre. René-Marc Zigel nous pose une question technique de très haut niveau. On a été obligé de la préparer, c'est pour moi, non, je vous en prie, pas d'insulte, je ne suis pas un expert. Quelle différence entre la tarabatte, ou la grelinette, ou la biofourche ? Ah, René-Marc, tu m'en as donné du mal. Alors, pour commencer, signalons que c'est quand même presque pareil. Hein. T'aurais pu aussi... parler de la fourche à bêcher, ça c'est chez Ducoter, ils font ça. Il y a Le Borne qui fait une biogriffe, il y a Profertile qui fait une jardinette, il y a Sécotec qui fait le guérilu, et Magellan qui fait une biofourche, et puis il y a au total, c'est des aérobêches quoi, en fait, c'est ça.
Ouais, le terme générique. Quoi.
C'est le terme générique. C'est des outils en fait qui vont décompacter et pas bêcher, hein, parce que parfois le nom peut le laisser penser, ça ne sert pas à bêcher, ça sert vraiment à décompacter, on ne va pas retourner le terrain. Elles sont toutes sur le même principe, elles ont des griffes qu'on enfonce et qu'on fait pivoter par effet de levier en disant le poids du corps et pas la force du dos. Ça c'est très important, on se fait pas mal. En fait, il s'agit de briser des mottes en secouant la terre sans se faire mal. Les différences entre les différents noms que tu nous as donnés, c'est souvent la largeur entre les manches. Les différents modèles, c'est la largeur qui est entre les manches, la longueur de ces manches. Donc il peut y en avoir des plus longs, des plus courts, des plus larges. C'est à choisir en fonction de votre taille et de votre gabarit. Hein, si vous êtes grassouillet, c'est pas forcément la même.
Puis la surface du jardin aussi.
Et la surface de jardin et la largeur de vos plates-bandes. Parce que des fois, une plate-bande de 3 dents, c'est peut-être mieux qu'une plate-bande de 6 dents. Sachant que 6 dents, c'est plus résistant, donc ça demande un peu plus de poids. Voilà, il faut y aller un peu plus fort. Et puis, il y a d'autres critères, comme la longueur des dents. Ça peut être un critère pour travailler à une bonne profondeur. Prenez pas trop court, hein, il faut une bonne trentaine de centimètres quand même. Mais en même temps, plus les dents sont longues, et plus il faut se méfier d'une facilitation qui les rendrait susceptibles de se tordre ou de se plier. Et il y a certains outils qui sont forgés et qui sont, de ce point de vue-là, un peu plus résistants, mais... parfois un peu plus cher aussi, c'est le prix de la qualité. Alors moi, si je devais choisir dans mes préférences, mon coup de cœur irait à la grelinette, hein, c'est l'original, inventé par André Grelin, un savoyard. Mais vous pouvez aussi aller vers la fourche à bêcher de Ducoter ou la biobêche de Hervé Le Gall. Comptez quand même une centaine d'euros hein, pour un modèle qui vous durera quand même de longues années. La question des outils, ce sera au cœur d'une de nos... prochaines émissions.
Oui, sachant qu'à terme, après, on peut se passer d'outils. Quoi.
Ah, ah, et ça, on vous en parlera dans cette émission-là. Comment se passer d'outils ? Faire une émission entière sur les outils.
Et après, comment s'en passer ?
Et commencer par dire qu'on va s'en passer. Je sens que c'est la meilleure publicité de l'année. Merci Hélène. Tu nous as bien aidé à développer notre auditorat. Allez, on va écouter de la musique. Thank you. 97.1 couleur FM vous diffuse dans les oreilles Ibrahim Maalouf, son album Kaltoum, et c'était son introduction. Kaltoum qui est un qu'est-ce Titane, parce que c'est toi qui as choisi ce disque.
Eh bien, c'est un jazzman, mais qui a beaucoup de réflexions sur son travail. Et là, c'est particulièrement en hommage à Oum Kaltoum, qui, et lui, il est trompettiste, il fait la trompette.
Oum Kaltoum, la grande chanteuse égyptienne. Voilà. Bien, aujourd'hui, nous parlons donc engrais verts. Herbes diverses et variées. Et alors, c'est quoi la division d'un engrais vert, Hélène ?
Un engrais vert, c'est une plante, en fait, qu'on va faire pousser. Il est vert parce que c'est une plante qui pousse, en fait.
D'accord.
C'est pour ça. Et un engrais vert, il est aussi, c'est important aussi le terme vert pour penser qu'après, c'est une plante qu'on ne va pas laisser aller à fleurs, c'est-à-dire qu'elle va rester verte. C'est la partie verte qui nous intéresse. La partie chlorophyllienne, quoi, la tige et tout ça, les feuilles. C'est moi, c'est nous, c'est...
Nous faisons des petits craquements de table qui nous accompagnent. Donc c'est bien, oui.
Non, voilà, c'est vert. La couleur, c'est la couleur. C'est pour ça qu'on appelle ça un engrais vert. C'est pas un engrais écologique, c'est pas autre chose. C'est vraiment la couleur parce que on va utiliser les plantes avant qu'elles fructifient ou qu'elles fleurissent même. Mm-hmm. Voilà, et on va les réincorporer dans le sol, on va les intégrer dans la rotation, etc., de notre jardin ou de notre culture, de nos cultures. Et elle va être utile par sa partie verte et par ses racines.
Tiens, pendant qu'on est sur du vocabulaire, parce qu'il y a engrais vert, il y a d'autres formes d'engrais, comme le compost, par exemple. Et puis, alors, je vais finir de poser ma question. C'est quoi la différence entre un engrais et un amendement ? Parce qu'on parle parfois d'amendement.
Oui, parce que le compost, ça peut être un engrais, mais c'est d'abord un amendement. C'est-à-dire que ça va agir sur la constitution du sol, et ça sera un engrais si le compost, et on le met jeune, etc., et qui va apporter des éléments fertilisants directement assimilables par les plantes. Mais sinon, si c'est un amendement, ça va être pour le sol.
C'est quoi, du coup, un amendement ? Un amendement, l'objectif, c'est de changer la texture du sol, ou de changer le sol, de nourrir le sol,
oui,
alors que l'engrais,
nourrir,
c'est,
oui.
Ça a pour objectif... de soigner la plante à plus long terme.
L'amendement, ça peut modifier effectivement la terre et ça va apporter des éléments de constitution de la terre. Alors que quand on va engraisser, ça va être pour la plante et donc ça peut apporter des éléments à la plante qui va servir à la nutrition de la plante.
Donc si j'amène par
Mais
exemple,
les deux vont être liés, c'est-à-dire un compost, c'est un amendement, donc ça parce que l'humus fait partie du sol, le compost va se transformer en humus dans la terre, donc c'est un constituant du sol. Mais après, cet humus, il va être dégradé par la vie microbienne, par tout un tas de facteurs, et va être donc mis à disposition et va nourrir la plante. Donc là, il aura une fonction plus engrais, puisqu'il va nourrir la plante.
D'accord. Donc si j'ajoute, j'en sais rien, je vais encore dire une bêtise, je le sens. si j'ajoute du sable ou du lithotam, par exemple, c'est pas une bêtise, c'est un amendement calcaire. C'est plutôt pour le sol, alors que si j'ajoute par exemple un extrait fermenté, oh là là, ça y est, elle est là.
Non,
la
mais
bêtise.
Je vais pas chercher.
Non, mais si j'ajoute un extrait fermenté de plante, ce sera plutôt pour engraisser par exemple ou pour équilibrer. Ah non, ça peut aussi être pour équilibrer. En fait, il y a plein de choses qui sont à la fois un engrais et un amendement.
Oui, oui, voilà. Puis après, si on fait des extraits de plantes, ça va être beaucoup pour une raison précise, soit qu'il manque quelque chose dans le sol, soit pour renforcer les défenses de la plante. Donc c'est encore un petit peu à part. Quoi. Mmh. Alors que engrais et amendement, c'est vraiment lié au sol, à la terre. Quoi. Mmh.
Donc aujourd'hui, nous parlons engrais verts qui ne sont pas des produits qu'on va rajouter comme du compost, du lithotam, du sable ou encore du NPK, azote, potassium.
Oui, parce que amendement, ça va agir sur la structure du sol. Ouais. On va modifier, etc. Ouais. Ça agit sur la texture et la structure du sol. Alors que tout NPK, tous les éléments nutritifs, on va dire, qu'on va rapporter, ça va être pour la plante.
NPK, pour rappel, c'est le triangle d'or de la monoculture, ouais. D'or un peu frelaté, hélas, puisqu'on dit que c'est les trois éléments indispensables à la production à la plante et qui sont en fait amenés massivement... sur les champs, mais qui en fait sont loin d'être ni suffisants ni d'être radieux, quoi.
Et puis donc on n'utilise pas, même si la plante a besoin d'azote, c'est pas l'élément principal dont elle va avoir besoin, en tout cas c'est à certains moments, le phosphore, le potasse et tout ça, ça va être à d'autres moments, mais il y a surtout des tas d'autres éléments nutritifs qui sont présents dans le sol et en particulier dans la partie organique du sol, qui vont permettre à la plante d'être équilibrée, etc., et avec des éléments qui vont être en quantité infime, donc qui ne sont pas forcément des grosses molécules et qui vont être tout autant utiles à la croissance de la plante, à sa maturité, à son goût, à plein de facteurs. Quoi.
Qui est important d'apporter parce qu'ils sont absorbés ensemble avec des plus gros macro-éléments.
Mais on n'est pas obligé de les apporter, ils peuvent être présents dans la terre et dans la matière organique qui est présente dans le sol. C'est pas nous en tant qu'hommes qui allons faire. Et la plante, en plus, elle a la capacité de ce qu'on appelle de transmuter, c'est-à-dire avec des éléments qui sont présents dans le sol et qui ne sont pas vraiment ce dont elle a besoin, il peut y avoir des mutations qui font que les éléments chimiques vont se transformer et que la plante va absorber ce qu'il lui faut. Elle est très, la plante, c'est un peu notre défaut humain, on va dire, la plante, elle a une grande capacité à être autonome dans sa nutrition. Quoi. Mmh. Alors que nous, on a tendance à penser que si on n'apporte pas tout ce qu'il faut de l'extérieur, elle ne va pas pousser. Quoi. Alors que c'est faux.
Bah, c'est quelque part, c'est aussi de l'anthropomorphisme.
Oui, complètement.
Quoi. C'est
la
projection de notre propre situation à la plante qui est en fait beaucoup plus autonome que ce qu'on pense.
Bien sûr, puis la plante, elle a un chevelu racinaire qui est impressionnant. Avec ses racines, etc., elle peut aller chercher très loin ce qu'il lui faut. Elle peut permettre justement ses mutations d'éléments. Elle est vraiment très active dans sa nutrition. Beaucoup, et ce n'est pas à nous de remplacer ça. Parce que si on le remplace en apportant des éléments de l'extérieur, la plante ne va pas développer du coup son système racinaire, de mycorhize et tout ça. Et donc, elle va être moins active et elle va perdre sa capacité à se nourrir toute seule. Donc c'est pas intéressant. Nous, c'est le contraire qu'on veut.
Nous entendons au loin les pompiers qui vont éteindre un feu.
Oh,
ils passent et ils s'en vont. Ah bah oui, c'est important. Mais du coup, c'est quoi l'intérêt de mettre des engrais verts, de mettre des plantes avant qu'elles soient en fleurs, en fruits ou que sais-je, sur notre terrain?
Ben, y a plusieurs intérêts. Déjà, l'engrais vert, on va faire pousser une plante. Bon, disons la plante, on va pas forcément l'acheter, ça peut être des graines qui nous restent ou des plantes comme ça, et ça va être important parce que ça va couvrir le sol, déjà, ça va empêcher que la terre affiche le camp avec des orages, avec des perturbations. Il va y avoir un enracinement donc en lien avec cette protection. Au niveau des racines, il va y donc avoir une fixation de la terre, donc déjà ça c'est important, et puis ça va couvrir aussi le sol sur la superficie, donc déjà il y a un aspect protection. Et puis ensuite, la plante, on va la réincorporer dans le sol. Donc, on appelle ça engrais vert parce que c'est un engrais aussi. Ça va enrichir on va dire les éléments fertilisants, enfin utiles pour la plante, vont être en quantité supérieure après la culture d'engrais vert. Donc ça, c'est important aussi. Après, il y a des plantes qui vont pouvoir laisser un peu d'humus aussi, donc ça va apporter quelque chose à plus long terme. Mais il y a vraiment cet aspect protection de la terre, quoi, qui est essentiel.
Ok. Eh bien, continuons. J'allais dire, faisons une pause musicale, mais non, nous avons tout à fait le temps. Nous avons tout à fait le temps. Donc, les engrais verts. Oui. C'est à quel moment que ça se pose, ça?
Alors, si on est là, on va se placer dans le cadre d'un jardin.
Oui, plus ou moins dans le cadre d'un jardin.
Donc, dans un jardin, on va faire une culture XY. On va, mettons, des salades, on va les ramasser. Après cette culture-là, il y aura peut-être rien du tout à mettre. Donc, c'est à ce moment-là, après entre deux cultures, quoi, on va mettre des engrais verts.
Quand on a un trou dans le calendrier de culture,
quand on ne sait pas ce qu'on va mettre. Plutôt que de rien mettre, on va mettre ça. Ou bien, on va le mettre en fin de saison pour qu'il y ait quelque chose pendant tout l'hiver qui couvre le sol. Et du coup, au printemps, quand on va redémarrer le jardin, ben, on enlèvera cet engrais vert, on détruira sur place. Quand on détruit un engrais vert, ce qui est important de savoir, c'est qu'on n'exporte rien. C'est-à-dire que l'engrais vert, il est fait pour rester complètement sur place, racines et végétation.
Donc si on fait pousser de l'épinard, par exemple,
on ne va
pas le manger?
Ah ben non, on prélève rien.
D'accord.
C'est un engrais pour le sol.
D'accord.
Oui. Et on dit vert parce que justement, c'est quand il y aura le maximum de la force de la plante dans ses feuilles, et donc avant qu'elle soit déjà en train de faire les boutons, les fleurs, etc. Quoi.
Ouais,
ça, c'est souvent compliqué parce que les gens, ils mettent par exemple, une plante qui va faire de la phacélie, par exemple, parce que les gens l'aiment bien en général. Elle fait des fleurs, elle est très belle, elle est mellifère, tout ça. Donc les gens disent, je vais quand même pas détruire ma phacélie pendant qu'elle est verte. Mais s'ils veulent de la phacélie pour les abeilles et tout ça, ils en mettent dans un coin, ils la laissent faire son cycle. Mais la phacélie en engrais vert, on va la détruire quand elle est verte. avant
c'est
qu'elle
triste.
Oui, c'est triste.
et beaucoup de plantes peuvent servir à, toutes, à ouais. cet usage.
Toutes les plantes peuvent servir. Alors, par exemple, si on a des vieilles graines, on sait que l'année prochaine, elles ne vont pas bien germer, ou en tout cas, il y aura un taux de germination qui ne sera pas très élevé. On peut s'en servir en fin de saison. On peut servir de tout. Après, en hiver, enfin, à l'entrée de l'hiver, on ne pourra pas mettre n'importe quoi, parce que l'idée, ce n'est pas que ça gèle. Même si les racines vont être quand même efficaces, vont travailler dans le sol, la partie aérienne, c'est important qu'elle soit là aussi. Donc, quand on va faire un mélange pour l'hiver, on va mettre des plantes qui ne vont pas geler. Et on peut mettre des plantes, comestibles. Sans tout le temps comestibles, mais on peut mettre des plantes, des légumes, mais on peut aussi mettre des mélanges de céréales avec des légumineuses, avec d'autres légumes. On peut vraiment faire ce qu'on veut, hein, dans les engrais verts.
Ben ça, on en parlera après la pause musicale, des différents types d'engrais verts en fonction aussi de ce qu'on veut et de ce qu'on peut avoir envie de faire.
Voilà, mais ça, oui. Mais c'est important, les deux termes sont importants, c'est-à-dire engrais parce que ça va enrichir le sol et la plante suivante, et puis vert parce qu'on le détruit quand il est vert.
Vous êtes sur Couleur Terre et nous allons écouter Ibrahim Maalouf. Thank you. Couleur FM 97.1. Vous venez d'entendre Ibrahim Mahalouf de l'album Kaltoum. C'était le titre Ouverture 1. Bon, pas très signifiant comme nom de musique, mais bon, c'est Ibrahim Mahalouf, alors on aime bien. Voilà. On parle engrais vert aujourd'hui dans Couleur Terre avec Hélène Hollard et Titane Ben. Et on va passer aux espèces d'engrais vert, ce qu'on peut utiliser. Alors juste avant, Ibrahim Mahalouf, tu nous disais qu'on peut utiliser tout. Tout peut être utilisé pour faire des engrais verts, que même si on a un vieux stock de graines, on peut le balancer juste pour voir ce que ça va faire et puis le couper avant. Mais on peut quand même aussi diriger, utiliser certaines plantes à dessein pour qu'elles travaillent pour nous avec certaines de leurs caractéristiques. Lesquelles, par exemple?
Mais déjà, avant de répondre... À la question, on va aussi les faire rentrer dans la rotation, c'est-à-dire qu'on va prendre des plantes en fonction des cultures qu'il y a eu avant et de ce qu'on va mettre après, etc. Donc les engrais verts, ils rentrent dans la rotation qu'on va mettre en place dans notre jardin. Ça, c'est important, parce que du coup, ça va quelquefois limiter le choix qu'on va avoir de prendre tel ou tel engrais vert ou de mélanger telle ou telle chose, quoi. Donc déjà, ça va être à prendre en compte, les rotations. Et après, ça dépend des besoins. Si par exemple, on a un sol qui est compacté, qu'on veut avoir une plante qui a beaucoup de racines parce qu'on a besoin de travailler le sol, bon, bah, on va prendre, je sais pas, de la phacélie ou des plantes qui ont un gros pouvoir racinaire. Si par contre, on a besoin d'enrichir notre sol parce qu'on a fait des rotations, qu'on a en fin de culture et qu'on a besoin de l'enrichir, on va peut-être prendre des légumineuses. Donc, mais une légumineuse, on va la laisser plus longtemps parce que sinon, ça n'aura pas de sens. Le temps que
quoi comme légumineuse, par exemple?
Parce que... N'importe, ça peut être des sainfoins, pas forcément des plantes qui vont faire des fruits parce qu'on va pas aller jusqu'à la fructification. Après, on peut prendre des vieilles graines si on a des haricots qu'on a peur qu'ils soient mauvais la prochaine fois. Bon, voilà, on peut les prendre. Mais on va toujours quand même rentrer dans la rotation et aussi dans les associations, soit c'est, on fait des buts, soit des lignes ou n'importe, que ça aille avec les voisins. Donc ça rentre vraiment dans notre plan de jardin global.
Global.
Et ensuite, si on a un problème, par exemple, de terre compactée, on va prendre des plantes qui vont avoir des racines puissantes pour décompacter le sol.
Type
La phacélie, c'est un peu celle qui est
connue
pour ça. Après, ce qui est intéressant dans la phacélie, c'est qu'elle est en dehors de toutes les autres familles. Donc, dans les rotations, eh ben, c'est pratique parce qu'on sait qu'avant ou après, on pourra mettre ce qu'on voudra, quoi. Donc ça peut être pratique. Après, on peut mélanger des plantes, certaines qui vont couvrir le sol, d'autres qui vont être plus hautes. On n'est pas obligé de faire de la monoculture. On peut faire un peu mélanger.
Tant mieux.
Voilà, mais le but, c'est quand même beaucoup que le sol soit couvert, quoi. Ouais. Après, ça va aussi apporter des éléments nutritifs, parce que donc là, l'engrais vert, on va le détruire. On va laisser pousser, selon les plantes, ça va pousser plus ou moins vite. Et avant donc que ça soit même en bouton floral, on va détruire la plante. Donc on va la détruire. Toujours pareil, ça dépend.
Comment
sur un jardin. De...
Parce que détruire la plante, tu passes à la tondeuse à gazon ou...
Alors, si t'as, bah après ça dépend. Si c'est une petite ligne, tu peux faire coupe-coupe,
d'accord,
au sécateur.
Sachant
qu'il faut couper les différentes strates pour que les morceaux soient les plus petits possibles, parce qu'après ça va rester sur d'accord. le sol, ça va sécher, essuyer. On va dire, selon la saison,
et
ça va être
pas à la
faux,
par exemple. Il faut vraiment que ce soit un peu broyé.
Non, faut que ça
broyé,
soit coupé.
Un peu coupé.
Ça peut être la tondeuse si c'est sur une parcelle assez large. On passe la tondeuse un peu comme ça. Et du
un
coup,
peu
ça
comme
va
ça,
hacher,
ça veut dire
vertical.
Vertical, ouais.
Et ça va hacher tout ce qui est là. Ça peut être... alors, des broussailleuses, ça en envoie un peu trop de partout. Mais l'idée, c'est quand même que ça soit coupé et haché et laissé sur place. Ensuite, on laisse préfaner, donc on laisse sécher... le temps, on va dire, entre 2 et 3 jours, normalement, ça peut avoir séché. On peut donner un coup de râteau pour que ça continue à sécher. Et ensuite, on va l'incorporer avec les racines, en détruisant les racines, enfin en mélangeant avec le râteau. Ça va donc déraciner les plantes. Et le mélange racines et plantes d'en haut, avec l'azote qui est apporté par les feuilles, la verdure, ça va se dégrader, ça va se transformer dans le sol. Et ensuite, on va attendre. Donc après, selon les cultures qu'on va mettre, mais ça rentre vraiment dans la rotation de nos cultures, quoi. C'est vraiment une culture à part entière, quoi. Donc ensuite, on va attendre. Grosso modo, ça va prendre à peu près 2 mois, 1 mois et demi à 2 mois. Ça veut dire que ça va prendre la même durée qu'une culture d'un légume,
courte,
quoi.
Oui, mais en même temps courte.
Oui, courte. Et après, si on le met à la fin de la saison pour rester tout l'hiver avec un sol qui soit protégé, parce que ça, c'est quand même un des gros atouts des engrais verts, eh ben, on va mettre une plante qui va résister au gel. parce que la facélie, par exemple, qu'on aime bien en général, elle gèle. Donc, on va prendre des plantes, des mélanges qui ne vont pas geler.
Comme par exemple
Des graminées, des épinards. Il y a plein de plantes qui résistent au gel. Mm-hmm. Et après, donc, on prend des graines qui vont quand même ne pas interférer sur les rotations de l'année suivante. Mm-hmm. Et puis, on va les laisser tout l'hiver, on va laisser notre jardin. Et ça évite d'avoir besoin de protéger le sol avec du paillage. Parce qu'on en a parlé souvent dans les jardins en ville, les gens disent « ouais, j'ai pas de paille, j'ai pas de ci, j'ai pas de là ». Mais rien n'empêche de mettre des engrais verts qui vont rester tout l'hiver.
Oui, c'est une autre manière d'avoir un peu de stockage, parce que s'il faut de la paille, il faut pouvoir la stocker ou la mettre quelque part. Ouais. Alors que des graines, ça tient dans une boîte, quoi, ou dans un pot tout au plus.
Oui, puis après, on défait au fur et à mesure. Enfin, on peut gérer, quand on veut démarrer au printemps, ben, on peut en défaire une partie. Et puis, ça reste vert tout l'hiver. Une céréale, elle ne va pas bouger pendant l'hiver. Mmh. Elle va s'installer, puis après, elle va rester. Ouais. Quelquefois, par contre, elle peut être difficile à déloger. C'est-à-dire que le chevelu racinaire est tellement puissant que quand on veut... Ça nous est arrivé d'enlever du seigle, par exemple, à la grelinette. Pas à la grelinette, pardon.
À la
griffe, là. Non.
À la tarabate.
À la griffe, je ne sais pas comment vous appelez ça. Le croc, là.
Oui,
voilà.
Le croc. Ouais. Moi, j'appelle ça le croc aussi.
Et bien, donc, quelquefois, c'est difficile d'enlever les racines. Quoi. Pour pouvoir mettre une autre culture après, ce n'est pas toujours évident. Quoi.
Ouais, mais ça occupe le terrain. C'est quand même un des intérêts.
Donc, faut trouver l'équilibre.
C'est un des intérêts, c'est qu'il n'y a pas d'adventistes qui s'y mettent. Enfin,
oui, là, il n'y a pas de problème. Pas d'adventistes, il n'y a pas de lessivage. Le sol reste en place parce que quand même, quand on voit la plupart des jardins l'hiver qui sont en terre nue, s'il y a des grosses pluies, n'importe quoi, la terre s'en va. Mmh. Donc, c'est vraiment de garder la terre en place et puis d'améliorer la terre pour la culture suivante. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans la rotation du jardin.
D'accord. On peut choisir. Facélie, c'est très connu parce que c'est dans une famille qui n'est cultivée par rien.
Et toute seule, quoi, dans sa famille.
Et toute seule dans sa famille, en tout cas pour les plantes maraîchères. Épinard, c'est aussi un grand classique déjà vu, déjà entendu.
Parce que l'épinard fait beaucoup de feuilles.
Et l'épinard fait beaucoup de feuilles.
Beaucoup de matière.
Il est très, très charnu comme plante. Gertrude Franck utilise ça souvent dans ses allées. Elle enherbe ses allées avec des épinards.
Mais les gens, pardon, je te coupe, mais sur les épinards, les gens, ils ont du mal parce qu'ils ont envie de les manger.
Ils veulent les boulotter, tu m'étonnes. Oui. Moi, c'est mon problème.
Voilà, donc quand on met des plantes comme ça qui font envie, c'est difficile de les garder puis de les détruire en plus. Il faut les hacher. Donc,
c'est terrible.
L'épinard haché, c'est pas.
Et l'oseille, par exemple?
L'oseille, oui, toutes les plantes peuvent servir. C'est pour ça que ce qui est important, c'est de les rentrer dans la rotation du jardin. Mais toutes les plantes peuvent servir d'engrais vert. Après, on peut mélanger les plantes si on veut.
Mais il faut les choisir en fonction des caractéristiques qu'on veut.
De famille, quoi.
Voilà. Les caractéristiques familiales.
Et puis d'enracinement, si on a besoin d'améliorer le sol ou si au contraire, on ne sait pas d'importance et qu'on veut finir ses vieilles graines parce qu'on sait que l'année prochaine, elles
vont pas. Oui, ça peut aussi avoir cet impact d'amendement, de changement de la structure.
Oui. Ah, le travail racinaire, il est très important. Hein. Mm-hmm. C'est un des rôles des engrais verts. Ouais. Mm-hmm. Oui.
Ok.
Oui.
Titane.
Est-ce que c'est une nouvelle école, je vais dire, assez nouvelle que de ne pas laisser la terre à nu, parce que souvent on fait la remarque entre même les rosiers, si on a des rosiers, etc., il faut toujours voir quelque part la terre. Et ne pas la couvrir. Ah. Or, il est vrai que même en temps très très chaud, quand il y a des plantes qui couvrent le sol, ça aide à garder certaines humidités.
Mmh. Oui, ça c'est la façon de faire, on va dire, un peu classique. Hein. Mais,
qui existe encore.
Oui, quand tu vois la plupart des jardins, terre est nue. Hein.
Oui.
Mais c'est aussi parce qu'on est dans une culture où on a besoin de travailler, de se faire mal au dos, on est un peu maso quand même. Ben, si, c'est vrai. Hein.
Oui, parce que du coup, les engrais verts, ils font aussi
notre travail.
Beaucoup ce boulot. On parlait de la tarabate, je crois que c'est aujourd'hui. Tout à l'heure. En pratique, ils font aussi ce boulot-là de décompactage, ils font aussi ce boulot de grelinage. On peut se passer, comme tu disais tout à l'heure, on peut se passer de travailler la terre en ayant les bons partenaires,
nous, hein.
quoi, en fait. Donc,
C'est une manière aussi d'avancer.
Oui. Puis après, c'est vrai que les gens aiment bien voir leur terre, mais est-ce que la terre aime bien être à nu? Je ne pense pas. Quoi. Il y a des terres qui ont besoin de geler parce qu'elles sont très lourdes et que c'est le gel qui va les fragmenter, les améliorer. Mais toutes les terres ne sont pas comme ça. Ouais. Donc, bon, aujourd'hui, je dirais, ça fait quand même un moment que les engrais verts sont dans l'agriculture biologique, les engrais verts, ça a toujours existé. Hein. Par contre, que ça passe dans les pratiques agricoles, ça se développe beaucoup, je trouve, maintenant. Aussi du fait de travailler moins le sol, d'être dans d'autres démarches. Quoi. Mais dans les jardins, il y a quand même une culture du jardinier français qui va suer dans son jardin et qui aime bien avoir sa terre parce qu'il a l'impression qu'il va tout contrôler comme ça quand il voit la terre, s'il y a une petite bestiole et tout ça, et tout de suite il va la repérer.
Qui en est fier.
Voilà, donc c'est ça. Mais,
un jardin
mais
bon, propre.
Oui, voilà.
Oui.
Propre. Oui. Mais bon, ça change quand même. Ça change beaucoup, mais on en voit quand même beaucoup. Moi, je circule beaucoup en train. Bon, ben, le nom des trains, il y a plein de jardins. Très peu sont paillés, couverts par quelque chose. Ou même si on peut mettre des fleurs, même si on ne fait pas d'engrais vert vraiment, on peut déjà couvrir avec des fleurs qu'on va laisser pousser. Ben, au moins, la terre sera protégée. Quoi. L'engrais vert, ça porte quand même bien son nom, c'est que ça va engraisser notre sol. Et nous, on est quand même dans une démarche où on cherche l'autonomie, on n'a pas besoin de tout le temps apporter quelque chose. Donc, entre les rotations, les associations, les engrais verts et les apports de compost, on n'a pas besoin d'aller chercher autre chose pour engraisser notre sol et lui permettre de produire. Quoi.
Encore une fois, avec les bons partenaires, on peut s'éviter du boulot, des dépenses. Qui c'est qui disait ça? C'était un besoin de votre système qui n'est pas fourni par votre système lui-même, c'est du travail. Et un effluent de votre système qui ne trouve pas sa place dans votre système, c'est une pollution.
Ça, c'est une approche très permacole.
C'est une approche permacole, mais du coup, avec les bons partenaires, on peut faire moins et mieux.
Oui, parce que nous, on est quand même dans une société où le travail est roi. Quoi. Et par exemple, quand tout à l'heure, on parlait de ne pas arracher les plantes, de les laisser dans le sol, parce que tout le travail qui a été fait par les micro-organismes dans le sol, etc., eh ben, il est perdu si on arrache la racine et qu'on la met. Moi, j'ai vu dans des jardins collectifs, les gens, ils arrachent tout.
La motte.
Ils mettent tout dans le composteur. Et quand on regarde à la fin d'une année, au fond du composteur, il y a au moins 20 cm de terre. Ah. Et c'est la meilleure terre du jardin qui a été enlevée, parce que c'est là que les racines ont travaillé, ont ameubli, etc., ont amendé. Donc, c'est dommage, quoi.
Mais ça, c'est ce que
c'est
tu
disais. C'est la situation de notre culture du travail, de la
culture
pénibilité.
Du travail, parfois, plutôt que de l'efficacité. Voilà, il y a la question de la douleur. Il y a peut-être un fond culturel aussi, de la... Souffre maintenant, tu seras récompensé plus tard,
demain,
quelque part. Donc, bon.
Nous, on essaie un peu d'aller dans l'autre sens. Profite de ton jardin aujourd'hui, et puis tu mangeras les légumes demain aussi.
Aussi, tu vois. Non, ouais.
Et tu auras pas mal au dos.
Bon, profitez d'Ibrahim Maalouf que nous vous servons aujourd'hui dans vos oreilles.
Couleur FM 97.1, c'était le troisième extrait de Kaltoum, l'album hommage de Ibrahim Malouf. Nous parlons engrais vert et désherbage aujourd'hui, oui, puisque on va tâcher de faire le lien entre les deux. Nous parlions du travail, on parlait juste avant la pause de notre bain culturel qui nous pousse à peut-être à penser qu'en travaillant dur, eh ben, ça veut dire travailler mieux, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, et qui nous pousse à penser que s'il y a des indésirés, il faut absolument les détruire, car ce sont des nuisibles. Ce n'est pas toujours le cas non plus, en fait. C'est peut-être cette vieille idée du contrôle sur l'environnement qui laisse penser que le contrôle, c'est être sûr d'avoir des résultats. C'est pas toujours si simple que ça.
Non, puis là, on a parlé des engrais verts. Si on fait des engrais verts, il n'y a plus tellement d'espace et de place pour que des plantes indésirables, on va dire, aient leur place et poussent. Donc déjà, c'est une des façons de réguler ou de maîtriser l'enherbement de notre jardin. Après, le désherbage, là où c'est un peu plus compliqué à gérer, c'est sur la ligne. Enfin, mettons, si on a des carottes ou je sais pas quoi, on va pas avoir mis quelque chose pour couvrir le sol, par exemple, jusqu'à ras de nos légumes, ni sur la ligne. Donc on peut avoir encore un peu de désherbage à faire. Mais après, il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a le fait de valoriser des herbes spontanées, parce qu'il y en a plein qui peuvent se manger, qui peuvent être valorisées dans la cuisine ou autrement, qui peuvent améliorer aussi le sol. Donc elles ne sont pas toutes diaboliques, quoi. Et puis quand on va avoir des pratiques, toutes celles qu'on a vues jusqu'à présent, on va avoir déjà beaucoup moins d'enherbement. Si on met par exemple, si on n'apporte pas déjà, parce que souvent les graines sont apportées par les jardiniers aussi. Hein. Bah oui. Parce que si on fait un compost de façon incorrecte ou qu'on apporte des graines avec la matière organique, bon, bah, il va y avoir des graines. Donc si on met du compost sur la ligne et que le compost n'a pas été bien
composté,
contrôlé, etc., maîtrisé, et on va avoir des graines qui vont pousser sur la ligne, même si on met du compost que sur la ligne, par exemple.
Faire du compost royal.
Voilà. Mais il ne faut pas oublier les oiseaux, parce que chez moi, ce sont les oiseaux qui travaillent beaucoup.
Sur les lignes, ils viennent manger les graines
Dans le jardin en général, je vais avoir un sureau qui pousse que je n'ai jamais eu de sureau. Les choses se déplacent. C'est très fantomatique, tout ça.
Oui. Oui, et puis les herbes qu'on appelle spontanées ou sauvages, elles ne sont pas toutes... Bon, effectivement, il y a du chien-dent, il y a des choses comme ça, mais avec le temps, ça se régule. Mais elles ne sont pas toutes indésirables. Il y a des plantes qui sont là, sauvages, et qui peuvent être intéressantes. Donc déjà, c'est pas avoir la phobie, parce que c'est un peu ça, souvent les jardiniers, ils ont la phobie des herbes qui ne sont pas celles qu'ils contrôlent eux et qu'ils ont décidé de voir pousser.
C'est encore cette question de, il faut que ce soit propre, c'est ce que je veux qui pousse là où je dois. Il y a une forme de rigidité, en fait. Des fois, je me demande si les gens qui se cassent le dos, c'est pas parce qu'ils ont une rigidité à l'intérieur, des fois.
Sûrement qu'il y a un lien.
Je me dis, mais... Ben, calme-toi, il est bien ton jardin.
C'est pour bien dormir le soir.
C'est mieux dormir, ça peut le faire.
Parce que si on va à l'extrême et qu'on couvre tout, par exemple avec du trèfle blanc, etc., et qu'on dégage juste les lignes pour faire nos cultures, on n'a pas d'enherbement, on n'a pas de désherbage à faire. Parce que de toute façon, tout pousse au milieu de l'herbe et d'un tapis vert avec des fleurs blanches.
Tapis vert.
Voilà. On peut mettre même de la couleur, mettre des... Enfin bon, ça c'est un peu mon rêve, hein, d'avoir des tapis, un tapis vert avec des fleurs mélangées dedans qui restent assez bas pour que les plantes ne soient pas en concurrence. Et voilà, et donc, du coup on n'a plus besoin de désherber.
Plus le trèfle,
du tout.
Ça se mange hein, aussi.
Oui, mais là on le laisse parce que si tu l'enlèves et que tu le manges, après du coup la plante elle va repomper des éléments pour refaire. Donc il faut la laisser.
C'est triste, c'est tellement triste.
Donc voilà, mais le désherbage ça peut être nécessaire, mais pas. Pas systématiquement, et on peut améliorer, mettons, quand on arrive quelque part et que le terrain est envahi par du chien-dent, par des rumex, par plein de trucs qui sont difficiles à enlever, on peut, avec le temps, améliorer et avoir une texture du sol qui fasse qu'il n'y aura plus ces plantes-là. Le terrain sera plus propice à ces plantes-là.
Et puis aussi la question des bio-indicateurs, c'est-à-dire que certaines plantes, c'est intéressant de savoir ce qu'elles nous disent, est intéressant à savoir, et que si on les dégomme au stade plantule, c'est un peu difficile de savoir ce qu'elles ont à nous dire. Il y a certaines plantes aussi qui vont attirer des auxiliaires, et puis qui du coup vont avoir un impact super positif sur les cultures, mais pas un impact effectivement, qui vont pas être une concurrence, qui vont peut-être faire de la concurrence racinaire, mais qui vont avoir un impact sur les pollinisateurs qui sont super intéressants. Enfin, la carotte sauvage, ça attire tout un tas de pollinisateurs intéressants.
Oui, oui, puis qui vont nous donner des indicateurs sur notre sol, par exemple, qui est asphyxié en profondeur, si on a du rumex ou si on a autre chose.
Ou la carotte sauvage aussi, des fois.
Oui, voilà, ça nous donne des indications et on sait que, par exemple, là, ben, on n'a pas intérêt à mettre une petite graine comme la salade ou je ne sais pas quoi qui va être trop fragile. Donc, ça peut être intéressant. Mais si on couvre et que tout notre sol est couvert ou il pousse quelque chose sur toute la surface de notre jardin, on est tranquille aussi. Hein.
Donc le désherbage, mais bof. Enfin, c'est j'ai l'impression que c'est à peine une préoccupation. Quoi.
Ah ben non, voilà. Et puis quand on désherbe, on n'est pas obligé d'arracher en plus. C'est la même raison que ce qu'on disait tout à l'heure, de garder les racines dans le sol, parce que ça fait, voilà, le chevelu racinaire va nourrir la vie du sol et le sol, la terre elle-même. Donc on peut très bien juste couper et puis voilà, si on est envahi, mais enfin si on sent que c'est gênant pour la plante, mais c'est pas du tout. Non, le désherbage, c'est vraiment quelque chose dont on peut arriver à se passer par les pratiques de base, hein, les associations de plantes, les rotations des cultures, les engrais verts, etc. Quoi.
Et c'est rigolo parce que ce dont tu me parles là, ça me fait penser à la manière dont les gens abordent la permaculture ou je pense aussi l'agroécologie. Ils arrivent souvent avec cette idée-là. Oh, j'ai entendu dire qu'en permaculture, on pouvait ne plus désherber ou on ne met pas d'antilimace. Ou... Comment vous faites? On fait de la permaculture, on fait de l'agroécologie. C'est pareil, c'est pas, il n'y a pas un truc. Comment vous faites pour pas désherber? Ou comment vous faites pour ne pas retourner? Enfin, on retourne
on désherbe pas.
Mais on fait d'autres choses, en fait. C'est juste c'est vraiment un changement global d'état d'esprit. On n'est pas juste dans un truc. C'est pour ça que on a pris un petit chemin de traverse légèrement philosophique tout à l'heure, mais c'est parce que c'est ça aussi. C'est pas juste un changement. On n'a pas une technique miracle comme les lasagnes ou comme le paillage qui permet à elle seule de tout régler. C'est vraiment un état d'esprit qui fait que les mini-techniques, les trucs vont s'imbriquer les unes dans les autres et où en fait on va pas se sentir gêné par quelque chose qui se passe parce qu'en fait c'est dans l'ordre des choses et puis que ça se produit comme ça doit se produire et puis
c'est un ensemble quoi.
Et c'est un ensemble de choses donc
après ça empêchera pas qu'on puisse être envahi par des limaces voilà, mais après c'est aussi comment on partage, comment on gère l'espace et pourquoi on a des limaces, comprendre aussi pourquoi on est infesté par une chose ou une autre, il y a toujours une raison
bien sûr. Donc, pourquoi vous manquez de hérissons, pourquoi vous manquez de carabes dans votre jardin,
qu'est-ce qu'on fait pour garder les coins sauvages, etc.
Exactement. C'est vraiment une question de
complètement.
On retombe encore sur cette question d'équilibre global. Mais si on cherche à amener une technique dans un ensemble de pratiques qui sont en elles-mêmes déséquilibrées, on dira « Ah, ça marche pas !» Mais oui, mais ça marche pas parce qu'en fait, ça marche pas. C'est comme dire « Oh là là, comment faire pour que ce soit bon ?» Je sais pas, moi, dans mon clafoutis, je mets un peu de sucre. Ah super, je vais mettre du sucre dans ma choucroute, ça va être meilleur. Non, là t'es en train de faire une choucroute, c'est pas un clafoutis. Non mais il y a de ça quand c'est un truc général.
Il y a ça, mais il y a aussi la notion de temps. Je pense que si on a matraqué sa terre, parce que si c'est un jardinier par exemple qui a matraqué sa terre, c'est-à-dire mis beaucoup d'engrais, travaillé tout le temps sans retourner, etc. Il va falloir du temps pour que la vie revienne dans le sol, pour que ça se rééquilibre. Donc ça va pas se faire du jour au lendemain non plus. Donc c'est ça aussi. Les jardiniers sont censés être patients, donc de dire, je change de méthode, j'attends 3 ans, 5 ans pour voir comment mon sol va réagir, qu'est-ce qui va se passer, comment ça fonctionne aussi autour, l'environnement du jardin, c'est hyper important, qu'est-ce qu'on met en place, enfin tout ça, quoi. C'est vraiment un ensemble, quoi.
Et ce qui compte, c'est de commencer. Quel que soit l'angle par lequel vous le prenez, que ce soit par du paillage, etc., de manière un peu paradoxale à ce que je viens de dire, il vaut mieux pailler et changer progressivement ces techniques plutôt que de tout changer d'un coup. Il est normal au début que vous ayez des petits soucis, des choses comme ça, ça va se produire, ça se produira tout le temps, mais il vaut mieux commencer et arriver quelque part au bout de quelques années plutôt que de jamais s'y mettre en se disant oulala, c'est trop compliqué pour moi. Il faut y aller petit pas à petit pas. On termine par là.
Oui,
de s'imbiber.
De s'imbiber peu à peu, progressivement, et de germer à votre vitesse. C'était Couleur Terre, une émission vertement engraissée, grâce aux moyens techniques de Couleur FM en Isère. Une émission préparée par Titane Ben avec Laurent Forcheron à la technique, animée par votre serviteur Flo M. Sève.
de Radio Permaculture avec Hélène Hollard. Vous pouvez réécouter cette émission, la télécharger, mais aussi la soutenir sur radioperma.org, tout comme vous pouvez vous inscrire à notre lettre de nouvelles pour recevoir directement dans votre boîte nos nouvelles productions. Couleur terre, cultivons la vie.
Couleur terre, cultivons la vie, une émission animée par Hélène Hollard, spécialiste en agroécologie, Floem Sève, spécialiste en permaculture, et Lucie Aubin, journaliste, tous deux à retrouver sur Radio Permaculture et avec bien sûr notre ami fidèle Laurent à la technique.
Adressé aux jardiniers chevronnés, en devenir ou tout simplement aux curieux ou dépassés par leur jardin, une émission qui sera à votre écoute, à vos questionnements, en donnant de fertiles matières à réflexion.
Comment respecter la vie et intégrer ce respect dans nos pratiques culturelles, économiques et sociales?
Comment construire une agriculture saine et vivante, indispensable à l'humanité, et trouver une autre compréhension de l'écosystème urbain et rural?
Et pour ce faire, une équipe de choc et diversifiée se réunit à ce micro pour partager ensemble ses savoirs spécifiques.